Thomas Val pour l'info à 6h. Bonjour Théo.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Les titres.
Le travail des enquêteurs qui se poursuit à Générac dans le Gard pour tenter d'identifier les causes de l'incendie qui a coûté la vie à un pilote bombardier d'eau. Il n'y a pas de place pour la haine dans notre pays. Les premiers mots de Donald Trump en réaction aux deux fusillades qui ont frappé les États-Unis ces dernières 24 heures. Dans ce journal également, le solde des crédits d'impôt qui arrive sur nos comptes avec un peu d'avance. Et puis le retour de Julien Alaphilippe devant le public français en folie hier soir à Aix-en-Provence.
Europe 1.
Le dispositif des soldats du feu s'est considérablement allégé ces dernières heures, mais les enquêteurs de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie sont toujours à pied d'œuvre à Générac, dans le Gard. L'incendie parti vendredi est désormais maîtrisé. Il a causé, vous le savez, la mort d'un pilote bombardier d'eau. Les experts tentent de déterminer si, comme le premier sinistre parti mardi, celui-ci a aussi été causé de façon criminelle. Leur parole est rare, mais ce matin, le chef du département enquête incendie à l'IRCGN, Guillaume Gognon, a accepté de nous expliquer sur Europe 1 comment travaillent ses équipes sur le terrain.
Un incendie, c'est une scène de crime à part entière. La première chose, c'est la recherche de la zone origine de l'incendie. Pour restreindre la zone, on va se servir de drones, on va se servir de chiens, des chiens de recherche en produits accélérateurs à l'incendie, qu'on va remonter le temps quelque part. Puis une fois qu'on en est là, on va faire effectivement beaucoup de recherches et surtout essayer de trouver des traces, des indices qui laisseraient penser une présence humaine, ça peut être des mégots, ça peut être des bouteilles incendiaires, ça peut être des éléments qui n'ont rien à faire dans la zone considérée.
Quand on a la certitude que c'est une cause humaine, qu'est-ce qu'on cherche comme information et comme indice ?
La difficulté, c'est vraiment de faire la distinction entre quelque chose d'humain qui est fortuit et quelque chose d'humain qui est délibéré. Ça peut être des éléments physiques, ça peut être un épandage d'un produit inflammable, auquel cas il aura imprégné le sol, et vous allez faire des prélèvements de sol aux endroits que vous supposez être les départs de feu, prélèvements qui vont être acheminés au laboratoire. Donc là, on rentre en fait dans un système qui est pluridisciplinaire. Vous allez avoir tout un tas d'autres experts, des empreintes digitales, de l'ADN, et après on va confronter ça avec les éléments de l'enquête, de manière à vérifier en gros la compatibilité des déclarations avec les observations qu'on aura faites au laboratoire.
Guillaume Cognon, chef du département incendie à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, joint pour Europe 1 par Salomé Legrand.
Aux États-Unis, Donald Trump a pris la parole pour la première fois cette nuit après les deux fusillades qui ont frappé les États-Unis.
La première faisant 20 morts à El Paso, au Texas. La seconde, 9 victimes, plus le tireur dans une ville de l'Ohio. Il n'y a pas de place pour la haine dans notre pays, a réagi Donald Trump. Sauf que le président américain est pointé du doigt par ses opposants ce matin, accusé d'avoir attisé depuis des mois un climat de haine. Écoutez l'analyse de Marie-Cécile Nave, chercheur associée à l'IRIS, invitée hier soir de Thierry Dagiral.
Depuis qu'il est élu et même pendant sa campagne, il a tenu des propos extrêmement durs contre les Mexicains, contre les immigrés en général. Et il a soutenu aussi des actes de violence émanant de suprémacistes blancs. On se souvient de l'attentat à Charlottesville en août 2017. Il dédouane finalement les suprémacistes de leur idéologie. Oui. Et il leur donne d'une certaine manière un chèque en blanc. Oui. Et ils se sentent légitimés dans leur passage à l'acte. Il faut savoir aussi qu'on est en période électorale et que Trump essaie d'imposer, il est en train d'y arriver d'ailleurs, le thème de l'identité d'une Amérique blanche. Mmh. Comme thème principal et comme storytelling de la campagne à venir.
Marie-Cécile Naves, chercheuse associée à l'IRIS, elle répondait dans le 18-20 d'Europe 1 hier soir à Thierry Dagiral. Situation extrêmement tendue à Hong Kong aussi ce matin. Après un nouveau week-end de manifestations, les militants pro-démocratie paralysent le métro de la mégalopole. Plus d'une centaine de vols sont aussi annulés à l'aéroport international. La dirigeante de l'exécutif hongkongais a pris la parole en conférence de presse. Elle accuse les manifestants anti-Pékin de vouloir, je cite, détruire Hong Kong.
Il est 6h05 sur Europe 1 et vous avez peut-être constaté une bonne surprise sur vos relevés bancaires ces derniers jours.
Un virement à votre bénéfice de la part des finances publiques. Il s'agit de la dernière partie des crédits d'impôt auxquels vous avez droit et qui devait vous être versé en septembre avec la réforme de l'impôt à la source. Elle arrive donc avec quelques semaines d'avance pour 3 millions de foyers. Olivier Samin.
Parmi ces 3 millions de ménages, il y a ceux pour qui ce n'est pas une surprise, mais ça fait quand même du bien. Et il y a ceux qui avaient tout bonnement oublié le dispositif et qui découvrent ce virement au cœur de l'été, se souvenant tout d'un coup qu'ils avaient déjà reçu de l'argent au début de l'année. Ben oui, cet argent, c'était un acompte égal à 60% du montant total des réductions et crédits d'impôt dont vous aviez bénéficié l'année précédente. Restait à verser le solde, c'est ce que font en ce moment les impôts, en s'appuyant sur ce que vous avez mis en mai dernier dans votre déclaration de revenus, comme dépenses effectuées en 2018 pour garder vos enfants, pour vos travaux de ménage, pour les dons que vous avez faits aux œuvres, etc. Et là, plusieurs cas de figure. Ou bien vous avez eu exactement les mêmes dépenses en 2018 qu'en 2017 et vous touchez à l'euro près les 40% restants. Ou bien vos dépenses ont augmenté. Par exemple, vous avez multiplié par deux les heures de votre femme de ménage. Dans ce cas-là, vous touchez plus que 40%. Ou bien, au contraire, vous avez réduit vos dépenses. Votre enfant, par exemple, qui n'a plus besoin de nounou puisqu'il va à l'école. Là, le fisc vous reverse moins de 40%. Il se peut même que vous soyez obligé de rembourser une partie ou la totalité de l'acompte que vous aviez perçu en janvier. Près de 2 millions de foyers seront dans ce cas cette année et ils auront jusqu'au 15 septembre pour faire leur chèque au fisc.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
En Méditerranée, 8 mois après l'arraisonnement de l'Aquarius, l'ONG SOS Méditerranée a repris la mer.
Avec un tout nouveau bateau pour venir au secours des migrants, l'Ocean Viking qui a quitté Marseille dans la soirée. Pendant qu'à Calais, d'autres associations humanitaires ne cachent pas leur colère face à la nouvelle campagne de communication du ministère de l'Intérieur. Des messages publiés notamment dans la presse locale qui appellent à signaler les rassemblements sur des plages, appellent à la délation, dénonce Jean-Claude Lenoir de l'association Salam qui vient en aide aux migrants.
L'appel du gouvernement, en fait, demande aux gens, de chaque fois qu'ils voient des migrants en bord de plage, éventuellement avec des bateaux, de dénoncer sous prétexte qu'ils risqueraient leur vie en allant en Angleterre. C'est un appel à la délation. Déjà, sur le point technique, une traversée de la Manche sur un bateau à moteur en bon état ne représente, contrairement à ce qui est dit, aucun danger. Donc tout ça, c'est déjà mensonger. On a essayé de faire un déni de solidarité, ça n'a pas pris. Donc maintenant, on s'en prend maintenant à faire un appel électoraliste, en fait. C'est pour attirer les gens de l'extrême droite. C'est du populisme électoral, parce qu'on arrive dans une période future des municipales. On essaye de flirter avec les voix des partis les plus extrémistes. Les citoyens français, on ne peut pas accepter. Nous, on a en tête liberté, égalité, fraternité. On l'a en tête et on le respecte. Ce ne sont pas de vains mots.
Jean-Claude Lenoir de l'association humanitaire Salam, joint pour Europe 1 par Victor Delande.
On a tous connu, il y a plus ou moins longtemps, la galère pour décrocher un job d'été près de Libourne, en Gironde. Une bande de jeunes ados a décidé de lancer une coopérative.
Ah oui, l'union fait la force. Alors, ils ont décidé de se rassembler pour proposer ensemble leurs services à des entreprises, à des particuliers. Ça va du jardinage à la peinture, en passant par la garde d'enfants. Une vraie structure digne d'une entreprise, déjà. Stéphane Place est allé à leur rencontre.
Comité des finances, du marketing ou encore des ressources humaines, avec l'aide de deux animateurs, cette dizaine de jeunes âgés de 16 à 18 ans a d'abord structuré cette coopérative estivale baptisée la BAL, la bande d'adolescents Action Libournais. Cette entreprise doit leur permettre de trouver des jobs d'été, de se faire un peu d'argent et aussi de découvrir une structure professionnelle. Nelly, qui a rejoint la BAL à 17 ans.
Je fais partie du comité finance. Les budgets, les devis pour des chantiers de peinture, des chantiers de babysitting et tout ça. Donc on est des jeunes, on n'est pas des pros, mais on a tout ce qu'il vous faut.
Élu président de cette coopérative, Enzo, 16 ans, reconnaît que dénicher les clients n'est pas si simple.
Le plus difficile, c'est de trouver des chantiers. Ça s'organise plutôt au feeling. Si par exemple une personne se sent mieux au babysitting qu'à la peinture, et ben, il va le dire et il va aller sur ce chantier.
Enzo et sa bande peuvent compter sur l'aide de Marie-Josée Daubigeon de la COP Alpha qui accompagne ce projet.
C'est aussi de leur faire voir que l'entrepreneuriat, il n'est pas qu'individuel, on peut faire un entrepreneuriat collectif. Et puis aussi, c'est par rapport au monde économique où de plus en plus, on est en train de proposer à nos jeunes de se mettre en entreprise solo. L'entreprise n'offre pas non plus un emploi à tout le monde. Ils vont être confrontés, je pense, à de l'entrepreneuriat.
À la fin de l'été, ces jeunes se répartiront les bénéfices en fonction des heures effectuées par chacun. Coutera Stéphane Place, Europe 1.
On termine avec les sports et le retour en fanfare de Julian Alaphilippe devant son public.
Le coureur tricolore héros de la dernière grande boucle a remporté hier la ronde d'Aix-en-Provence, l'un des traditionnels critériums d'après-tour qui se courait dans la soirée. C'était sa première course en France depuis ses 14 jours en jaune cet été. Et il a pu savourer, Julian Alaphilippe, un accueil toujours digne d'une star.
Bah, c'est sûr que c'est un petit peu plus qu'avant, hein, au niveau des sollicitations, au niveau du public. Quand j'ai pris l'avion pour aller à Saint-Sébastien, tout le monde me reconnaissait dans l'aéroport. Ça, c'était une première pour moi parce que j'ai l'habitude de répondre aux sollicitations et aux fans. Mais là, je suis arrivé à l'aéroport, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Et ça, c'est spécial. Je me suis rendu compte que le tour a vraiment marqué les gens. Donc voilà, il faut juste rester tranquille, rester soi-même. Et puis penser à soi surtout parce que il reste encore des courses jusqu'à la fin de saison. Donc tout ne s'arrête pas au tour. Et, enfin pour moi en tout cas. Et je vise pas le classement général du tour l'année prochaine. Donc forcément j'ai fait rêver les gens cette année. Mais l'année prochaine je viens pas pour gagner le tour. Par contre, je vais continuer à faire du vélo comme j'aime le faire.
Les idées déjà claires de Julien Alaphilippe. Pour le prochain tour, il répondait à Roman Hockey pour Europe 1. Et puis un dernier mot pour vous dire qu'en football, l'Olympique de Marseille boucle sa préparation d'avant-saison sur une défaite hier soir 1-0 face aux Italiens de Naples au stade Vélodrome, devant 40 000 spectateurs quand même venus fêter les 120 ans du club phocéen.
Et voilà pour le journal complet signé Théo Manval qu'on retrouve tout à l'heure à 7h. Il est 6h11. Sébastien